Bonjour, je m'appelle Salim Amadou, je suis étudiant en sciences humaines au Cégep de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, nous recevons Madame Hélène Belot. Merci beaucoup d'avoir accepté mon entrevue.
Ça me fait plaisir.
Parfait. Donc, juste pour faire une petite brève biographie de vous. Donc, vous êtes professeur titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique, directrice du programme de mobilisation des connaissances et titulaire de la chaire Argent, inégalités et société. Vos recherches portent sur l'usage social de l'argent, les inégalités économiques, les relations de couple et les enjeux financiers liés au genre au Québec. Donc, votre expertise permettra de mettre en lumière certaines zones d'ombre au sujet de la place de la femme dans notre société. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la place de la femme au Québec sous l'angle économique et social, notamment le rapport à l'argent, au travail et aux inégalités financières. Donc, pour ma première question, comment décririez-vous l'évolution de la place de la femme dans l'économie québécoise au cours des dernières décennies?
Oh, au cours des dernières décennies, en fait, les femmes ont pris davantage de place dans l'économie formelle, je peux dire, parce que les femmes ont toujours été des incontournables dans l'économie informelle, au sens où, malgré qu'elles n'occupaient pas pendant une certaine époque d'emplois rémunérés, leur apport est essentiel pour faire en sorte que les travailleurs puissent se nourrir, se refaire d'une certaine façon. L'augmentation, je devrais dire, des femmes sur le marché du travail s'est faite à partir des années 50, en fait, même les années pendant la guerre, elles étaient très présentes. On a essayé de les retourner à la maison, mais ensuite, leur nombre n'a cessé d'augmenter au fil des années. Alors aujourd'hui, les femmes ne gagnent pas autant que les hommes, c'est très clair. Et selon les différentes régions du Québec, on voit des écarts qui sont énormes. Donc, il y a encore vraiment des grands pas à faire pour avoir véritablement l'égalité entre les hommes et les femmes sur le plan économique. Alors, c'est vrai au niveau salarial, mais c'est vrai aussi au niveau de la richesse accumulée au fil des ans.
C'est quoi qui fait en sorte qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes au niveau du salaire?
Alors, quand je disais justement que dans les régions, on le voit bien, dans les différentes régions du Québec, surtout les régions où il y a de l'exploitation des ressources naturelles, les salaires des hommes peu scolarisés sont très élevés. Et dans ces mêmes régions, alors je pense par exemple à l'Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou à la Côte-Nord, on a de l'industrie. Alors, il y a les minières, il y a les forestières, donc c'est vraiment de l'exploitation des ressources naturelles. Les salaires des hommes sont très élevés, alors que les salaires des femmes, typiquement dans les services, sont moins nombreux. En fait, les emplois sont moins nombreux et les salaires sont nettement moindres. Alors, ça, c'est un des facteurs. L'autre facteur, c'est véritablement la prise en charge de la vie familiale et de tout le travail non rémunéré que prennent encore aujourd'hui les femmes. Donc, on a un magnifique service réseau de garde, je devrais dire, mais qui n'est pas déployé également partout dans la province. Alors, ça, c'est une première chose. Et néanmoins, ce sont les femmes, en fait, majoritairement, qui travaillent à temps partiel quand les enfants arrivent, qui réduisent leur temps de travail, qui ne prennent pas certaines promotions. Quand on regarde le taux horaire des hommes et des femmes, on est presque à parité. Je pense que les femmes sont rendues à presque 90% du salaire des hommes. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'économie dans un sens plus large et prendre en compte justement toute la question du travail non rémunéré qu'assument les femmes. Donc, elles travaillent à temps partiel pour s'occuper des enfants, mais aussi pour s'occuper des parents âgés. Et c'est ce qui fait qu'il y a des écarts de revenus importants.
Au niveau du Québec, est-ce que le Québec, il est un peu plus égalitaire ou un peu moins comparé aux autres provinces au Canada?
Pas avantageusement nécessairement, pas négativement. Je pense que c'est comparable. Je vous dirais qu'au Québec, en fait, on met beaucoup, beaucoup d'énergie à se dire égaux. Alors, plus d'énergie qu'à le faire dans la réalité, si je peux dire, là. Au niveau du partage des tâches, quand on compare, par exemple, le partage des tâches domestiques entre les hommes et les femmes, quand on se compare avec la France, ben, c'est exactement la même chose, alors que les Québécois ont tendance à penser qu'ici, c'est beaucoup plus partagé. Je dirais le prêt est en marche pour l'égalité, mais on est encore loin de la réalité. Je vous dirais au point de vue économique simplement, là, quand on regarde chez les moins de 50 ans, donc, je vais vous donner plutôt l'exemple des couples avec enfants mineurs. Donc, on est chez les jeunes générations, là. Quand on regarde, par exemple, la proportion des femmes qui contribuent davantage au revenu familial que leur conjoint, donc les femmes qui gagnent plus que leur conjoint, c'est à peine 20% des femmes qui gagnent plus que leur conjoint. Puis, ce qu'on oublie souvent, c'est de regarder, mais dans quelle tranche de revenus? Parce qu'on a l'impression que les femmes qui gagnent plus que leur conjoint, ça doit être des professionnels qui sont des ingénieurs, des avocates, des professions qui sont lucratives. Mais dans les faits, dans ce 20%, au moins la moitié déclare un revenu personnel de moins de 50 000 par année. Faut se remettre dans le contexte, ce sont des femmes qui gagnent plus que leur conjoint et qui ont des enfants. Donc, il ne doit plus rester grand-chose quand une fois que le ménage a fait toutes les dépenses quotidiennes. On n'est pas encore. C'est encore encore majoritairement dans les couples, majoritairement les hommes qui gagnent plus que leur conjoint.
Mais vous parlez justement des couples, c'est très intéressant ce sujet parce qu'on sait que, voilà, comme vous avez mentionné, il y a souvent des écarts entre les hommes et les femmes. On sait qu'il y a plusieurs couples qui optent pour la méthode tout en commun, donc mettre tout sur un même compte. Est-ce que ça marche vraiment de faire ça, de mettre un compte conjoint et des trucs comme ça? Est-ce que ça mène pas à d'autres problèmes finalement?
Alors, je vais remettre les choses, les pendules à l'heure, je peux dire. Au Québec, c'est à peu près la moitié des couples qui gèrent en commun. Je dois ajouter aussi que le Québec est le leader mondial de l'union libre. Donc, les couples ne se marient plus. Je le mentionne parce qu'au moment d'une séparation, quand un couple se sépare et que ce couple n'est pas marié, ils sont considérés pratiquement comme des étrangers. Chacun repart avec ce qu'il a payé. S'il y en a un des deux qui avait plus d'argent, qui a payé la maison, qui a payé la voiture et tout ça, ben, la personne repart avec ce qu'elle a payé, puis c'est vraiment les factures qui font la preuve. Alors, si on regarde du côté des couples mariés, c'est du côté des couples mariés qu'il y a le plus de couples qui vont mettre leurs choses en commun. Chez les couples en union libre, au contraire, il va y avoir un partage des dépenses, soit 50-50, ou soit proportionnellement aux revenus de chacun. Cette façon de faire, justement, fait en sorte que les deux conjoints n'ont pas accès à l'ensemble de l'argent, mais en gérant proportionnellement aux revenus de chacun, on se dit, ah, ça doit équilibrer les choses. Mais ce que l'on ne voit pas là-dedans, c'est toute la question aussi de l'épargne. Et ça, chez les couples en union libre, il y a seulement 25% des couples en union libre qui mettent l'épargne en commun. Ce que les statistiques montrent, c'est que plus il y a des écarts de revenus importants, plus les couples gèrent séparément. C'est un peu contre-intuitif. On pourrait se dire qu'ils devraient plutôt essayer d'équilibrer les choses, mais non. Et donc, ce qui se passe, c'est que particulièrement quand arrivent les enfants, les couples ont tendance à gérer séparément parce qu'il y a des grands écarts de revenus et à épargner aussi séparément. Et donc, les femmes épargnent très peu, puis les hommes peuvent mettre des sous de côté. Puis juste pour vous donner un ordre de grandeur, on épargne 5 000 $ une année. Bien, ce 5 000 $ vaut 40 000 $ 35 ans plus tard, au moment de la retraite. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'au Québec, les femmes, par exemple, au moment de prendre leur retraite, ont 30% de moins de revenus que les hommes. Alors, c'est pas vrai de dire que les couples mettent tout ensemble. Alors, il y en a de moins en moins qui mettent tout ensemble, autant chez les gens mariés que chez les couples en union libre. Chez les couples en union libre, ils sont plus nombreux à le faire. Puis, ce qui est aussi très particulier, c'est que les couples, en fait, quand ils se mettent en ménage, n'ont pas l'idée d'une séparation dans leur esprit souvent. Ils pensent pas qu'ils vont se séparer. On a l'impression qu'on est en couple et que ça va durer tout le temps. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, en moyenne, au Canada, les unions maritales, donc les couples mariés, la durée moyenne de l'union est de 15 ans. Chez les couples en union libre, on sait que c'est encore moins que ça. Donc, la probabilité de se séparer durant sa vie conjugale est quand même énorme, mais les gens ne l'anticipent pas. Puis on voit justement au moment où il y a des ruptures, c'est les femmes souvent parce qu'elles sont en union libre, parce qu'elles ont un moins gros revenu, parce qu'elles se sont occupées beaucoup des enfants, elles se sont dit les choses vont s'équilibrer peut-être à long terme. C'est l'organisation qui ne fonctionne pas, je peux dire.
J'ai vu que votre chaire aussi, elle étudie les trajectoires des femmes immigrantes et je trouve que c'est très 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 important d'en parler parce que moi, étant fils d'immigré, je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément assez et qu'il y en a qui ont réellement des grosses difficultés économiques.
Alors, les femmes immigrantes particulièrement, ce sont celles qui sont le plus surqualifiées par rapport à leur travail. Donc, elles ont des diplômes et tout ça, mais qui ne sont pas reconnues. Puis, elles finissent par trouver un travail qui, justement, qui est moins bien rémunéré par rapport à leur diplôme. C'est celles aussi qui accumulent le moins de patrimoine, si je peux dire, au fil des années. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est que selon les origines ethniques, selon aussi la religion, que la religion et l'argent sont très liés, selon les systèmes juridiques du pays d'origine, les choses vont se passer différemment. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que dans les pays musulmans, mais aussi, je pense au Cameroun, entre autres, qu'on a étudié plus spécifiquement, souvent, c'est l'homme, en fait, qui va gérer ou contrôler une bonne part de l'argent au pays d'origine. Quand ils arrivent ici au Canada, le niveau de vie est tellement élevé ici qu'un seul revenu ne suffit pas, ça prend deux revenus. Et là, il y a vraiment un travail comment je dirais, donc d'ajustement qui se met en place. Puis les conjoints mettent de plus en plus en commun leurs choses, puis essaient d'équilibrer le travail. Ça ne veut pas dire que le travail domestique est mieux partagé, ça c'est une autre question. Et souvent, en fait, il y a des stratégies dans les couples pour permettre aux deux de travailler, éventuellement d'acquérir une propriété ou d'avoir des enfants, avoir suffisamment d'argent juste pour le quotidien, là. Et une des mécaniques, c'est souvent que les nouveaux arrivants, quand ils vont s'installer ici, quand les diplômes ne sont pas reconnus, ce qui arrive très souvent, parfois les hommes vont retourner aux études pour aller chercher un diplôme supplémentaire et tout ça. Pendant ce temps-là, les femmes vont rapidement prendre un emploi pour lequel elles sont surqualifiées. éducatrice en garderie, même si elles ont un diplôme de maîtrise en biologie, ce genre de choses. Et là, pour laisser le temps au conjoint d'acquérir un diplôme local, et ensuite, lui va aller travailler, puis elles, en fait, déjà, leur diplôme ne vaut plus rien au bout de 5-6 ans, et en fait, elles n'arrivent pas à le faire valoir. Il y a toute la question aussi de, quand on a des enfants, d'avoir une place en garderie, à Montréal particulièrement, et donc, c'est qui va rester à la maison? C'est les femmes qui vont rester à la maison. Alors, les femmes sont, particulièrement les femmes immigrantes, là, ils en arrachent vraiment avant de pouvoir s'installer, tout ça, puis elles vont être désavantagées financièrement, mais toute leur vie. Je dirais la catégorie la plus touchée par les inégalités économiques.
Exactement, il y a aussi sur le marché du travail, comme vous avez parlé, il y a des inégalités, que ce soit la religion, l'origine, etc. Mais est-ce que vous confirmez que les femmes immigrantes qui ont un nom qui ne sonne pas québécois, est-ce qu'elles ont vraiment plus de difficultés à se faire engager ou est-ce que c'est un peu un mythe?
Que ce soit les femmes ou les hommes qui ont un nom étranger, si ils tombent sur des employeurs qui sont racistes ou des propriétaires d'appartements qui veulent pas louer à des étrangers, c'est clair. T'sais, en tout cas, il y a des études aux États-Unis qui ont été faites là-dessus. J'imagine au Québec aussi, mais je vous avoue que je connais moins cette littérature, mais le contraire m'étonnerait en tout cas.
Parfait, merci beaucoup. Les femmes immigrantes, c'était super important. Et il y a aussi un autre type de femmes qui est beaucoup présent ici, c'est les femmes plus âgées. Est-ce qu'on retrouve davantage de femmes âgées en situation de précarité ou est-ce que c'est kiff-kiff entre les hommes et les femmes?
Non, clairement, là, tout à l'heure, je mentionnais que les femmes ont au moins 30% de moins de revenus à la retraite. J'ajouterais que tout le secteur communautaire et tous les secteurs de soins moins bien payés sont occupés par les femmes. Et donc, on voit entre autres là, actuellement des femmes qui prennent leur retraite puis qui ont aidé d'autres populations, qui ont aidé toute la population à sortir de la pauvreté, à s'organiser et tout, et qui se retrouvent sans fonds de retraite, à part quelques exceptions, mais qui se retrouvent justement à la retraite elles-mêmes plus pauvres. Alors, il y a ça, puis il y a aussi le fait, comme je mentionnais tout à l'heure, la question des séparations. Au Québec, contrairement à certains autres pays, on est très nord-américain sur notre manière de planifier la retraite. Il faut planifier la retraite, mettre des sous de côté parce que ce que va offrir le gouvernement ne sera pas suffisant pour avoir une retraite justement décente. Mais c'est vraiment un impensé, je peux dire, de la vie conjugale. Les conjoints ont tendance, comme je disais tout à l'heure, à gérer l'épargne séparément. Et avec les séparations, c'est là où les femmes paient vraiment la note. En fait, n'ont pas épargné ou très peu épargné parce qu'elles s'occupaient de la vie familiale, par exemple. Souvent, au moment d'une séparation, elles n'ont pas les moyens de racheter la part de leur conjoint de la maison. On voit qu'il y a deux fois plus d'hommes que de femmes qui récupèrent la maison après une séparation. Et ça se cumule tout le long de la vie. Ça va donner, en fait, au bout, quand va venir le temps de prendre la retraite, là, justement, ça va être tous ces obstacles qu'elles ont rencontrés dans leur vie qui vont faire en sorte, justement, en fait, c'est structurel, carrément, là. C'est pas une question de choix personnel, c'est vraiment une question structurelle qu'il faut remettre en question, je pense, là, parce que, oui, clairement, les femmes sont plus désavantagées au niveau de la retraite.
On a parlé beaucoup des problèmes qu'il y avait au niveau de la société, au niveau des femmes, mais est-ce que vous avez une piste de solution, justement, pour réduire ces inégalités, faire en sorte que ce soit un peu plus juste?
Oui, alors moi, ma piste de solution, c'est, je pense qu'on doit avoir un encadrement juridique, un meilleur encadrement juridique des couples en union libre. Il y a une loi qui est passée cet été pour l'union parentale, pour ceux qui ont des enfants en commun à partir du mois de juin 2025. Mais dans cette loi-là, il n'y a pas de partage des fonds de retraite, contrairement au mariage et tout ça. Donc, c'est une loi, en fait, qui est passée, puis pendant la commission parlementaire qu'il y a eu et tout ça, il y a plein de groupes de femmes, dont le Conseil du statut de la femme, qui est venu dire que ce serait important qu'il y ait un partage des fonds de retraite. Alors ça serait une piste de solution. Ça n'a pas été fait, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire. Je pense que l'éducation est super importante. Alors moi, je publie des livres, entre autres, L'amour et l'argent, guide de survie. Je fais beaucoup d'éducation populaire, des formations avec des groupes communautaires et tout ça. Je pense qu'il y a, en fait, toute la question des services de garde, c'est important. De maintenir notre réseau de services de garde, voire de l'améliorer, parce que c'est ce qui fait aussi la différence. Puis je pense aussi qu'il faut vraiment insister sur, en fait, il faut mettre à jour les chiffres que je vous donnais, c'est des choses que les gens ne savent pas. Et je pense que si nos politiciens comprenaient justement toutes ces questions d'inégalité entre les hommes et les femmes encore aujourd'hui, ben peut-être que les choses bougeraient un petit peu plus. Avec la chaire de recherche, là, ce que je fais, c'est que je travaille aussi avec des conseillers en services financiers qui rencontrent des couples. Je les amène justement à poser certaines questions sur le partage des tâches, sur le partage des fonds de retraite. Il y a plein de pistes de solutions, là. On n'est pas là encore, mais on va peut-être y arriver dans 50 heures.
On espère le plus tôt possible. C'est déjà terminé, c'était hyper intéressant, franchement, super enrichissant. Merci beaucoup, Madame Belot, pour
Ça
votre
me fait
temps et votre
plaisir.
générosité.